France Culture, 7h-9h, les matins d'été, Chloé Cambrelin.
Un ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, accusé de viol et accueilli par des manifestations ou prises à partie lors de ses déplacements. Un ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, accusé de tenir des positions anti-féministes. Un adjoint à la mairie de Paris, Christophe Girard, qui quitte son poste, dit-il, sous pression. Depuis hier, visé par une enquête préliminaire pour viol, mais avant cela, accusé d'avoir entretenu des liens avec Gabriel Matzneff. Et tout l'été, des tribunes et contre-tribunes sur les combats féministes, leur évolution, leur mode d'action. Même l'héritage de Gisèle Halimi après sa mort a donné lieu à des oppositions. Nous pourrions remonter beaucoup plus loin, bien sûr, évoquer d'autres fractures, la question étant toujours de savoir dans quelle mesure ces débats font partie du combat et le font ou non avancer. Deux invités avec nous ce matin, Michel Rio-Sarcé, bonjour.
Bonjour.
Professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université Paris 8, autrice notamment d'une histoire du féminisme publiée à la découverte en 2002 et plusieurs fois rééditée. Et Bibia Pavard, bonjour.
Bonjour.
Historienne vous aussi, maîtresse de conférence à l'IFP Paris 2, co-autrice avec Florence Rochefort et Michel Zancarini-Fournel de « Ne nous libérez pas, on s'en charge », une histoire des féminismes de 1789 à nos jours, apparaître à la découverte également le 27 août prochain. Alors d'abord, Bibia Pavard, il faut sans doute commencer par ce pluriel qui est dans le titre de votre livre. Le féminisme a toujours été des féminismes ?
Oui, alors c'est ce qu'on a voulu montrer dans cet ouvrage, c'est que on a tendance à réduire le féminisme à un courant de pensée, à un mouvement unique, alors qu'il est toujours pluriel, toujours traversé par des divisions à la fois théorique, à la fois politique et stratégique, que ce soit au 19e siècle, au 20e siècle ou aujourd'hui. Et ces divisions, moi je pense, font avancer les féminismes et leur donnent aussi plus de surface politique, médiatique.
Alors, Michel Rio-Sarcé, il y a toujours eu des tensions, des féminismes, mais peut-on identifier aujourd'hui des courants et dans quelle mesure s'inscrivent-ils dans la lignée de courants précédents ?
Oui, effectivement, il y a toujours eu des tensions dans le féminisme, comme dans tous les courants politiques. Les femmes ne sont pas exceptionnelles dans ce domaine. Mais dans cette orientation un peu conflictuelle à laquelle on assiste aujourd'hui, on met beaucoup l'accent sur les conflits, sur les dissidences, sur les dissonances. Mais toujours, ces dissidences, ces tensions, ces conflits ont eu lieu. Et pour résumer et pour synthétiser, on pourrait dire que le féminisme s'est fréquemment opposé entre moralisme et radicalité, d'une certaine manière, entre essentialisme, universalisme, et toute l'histoire est ponctuée par des divergences qui me semblent parfaitement liées au débat, à la démocratie. Qu'est-ce que la démocratie, si ce n'est précisément cet antagonisme et ce débat nécessaire pour pouvoir avoir une vision un petit peu correcte du monde tel qu'il va ?
Et cette opposition, ces divisions que vous évoquez, notamment donc entre morale versus radicalité ou action politique, c'est effectivement notamment ce que l'on retrouve dans la tribune publiée fin juillet par Mazarine Pinjot dans Le Monde et qui a suscité beaucoup d'autres tribunes. Alors pour remonter un petit peu plus loin, Bibia Pavard, le moment le plus proche de nous, en tout cas qui a été justement perçu, analysé comme un moment c'est MeToo, très tôt aussi il a suscité des réactions sur ce même mode, finalement, de ce que l'on peut lire aujourd'hui, avec en particulier cette tribune sur la liberté d'importuner. On était déjà là et on est toujours là dans cette question de la morale versus l'action.
Mais disons que autour du moment MeToo, qui, il faut le dire aussi, était extrêmement pluriel dans les voix qui se sont exprimées, il y a eu un débat autour de la question de la prise de parole publique et le risque du tribunal populaire ou de la délation. versus l'action stratégique politique de dénonciation. Et ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que autour de MeToo, ce qui s'est passé, c'est un élan collectif de rupture par rapport à des situations qui étaient jugées ne plus devoir exister, ouais. Mais la dénonciation d'individus a finalement été très rare dans ce moment, il faut le souligner, c'est quand même très rare dans l'histoire du féminisme aussi, d'avoir des personnes qui sont directement visées. Cela dit, c'est une pratique politique que le naming and shaming, c'est-à-dire de certaines
nommer pour faire honte.
Voilà, c'est ça. C'est des personnalités qui sont représentatives d'un système entier, d'un rapport de pouvoir inégalitaire, qui sont parfois le symbole qui sont nécessaires pour faire bouger en fait ces inégalités. Et donc on a là une opposition stratégique assez importante. Et pour moi, l'idée de délation ne correspond pas du tout à ce moment MeToo. Au contraire, qui a plutôt été un moment de dénonciation d'un système et de pouvoir qui produit cette violence envers les femmes.
Michèle Rios-Arcé, vous aviez vous-même à l'époque réagi à cette tribune sur le droit d'importuner.
Oui, j'avais réagi parce que cette tribune ne correspondait pas à la réalité telle qu'elle était perçue par les femmes. Les jeunes en particulier, qui redécouvraient avec beaucoup, beaucoup de réalisme, d'une certaine manière, la nécessité, pour être libre, de s'émanciper soi-même. Mais pour s'émanciper, il était nécessaire, et il est nécessaire, d'avoir la propriété complète de l'esprit et du corps. Et ce mouvement qui a commencé, on a trop souvent tendance à imaginer que c'est parti d'Hollywood. Et je crois que la société du spectacle, à l'heure actuelle, me semble largement se surimposer à la réalité d'un mouvement. Ce mouvement avait commencé en Inde. Les femmes s'étaient révoltées face à une réalité catastrophique, très visible, puisqu'elles avaient assisté à un viol collectif dans un bus. Et très vite, on a oublié cette dimension sociale particulièrement importante, et ça s'est tout simplement, ça a été recouvert par ce que j'appelle, après bien entendu un grand auteur, la société du spectacle. Mmh. Et cette société du spectacle participe, à mon avis, d'un phénomène qui masque une prise de conscience qui, depuis longtemps, existe. D'un certain point de vue, le mouvement MeToo pourrait ressembler à ce qui se passait dans les années 1830. Savez-vous que ce sont ces années-là qui, pour la première fois, ont défini les femmes de cette époque-là, les féministes, même si le mot n'existait pas, ont découvert ce qu'était l'émancipation. Mmh. L'émancipation passait par la liberté de soi-même, y compris et surtout dans la famille, et elles avaient des mots d'ordre du type « Quelle est cette coutume qui nous oblige à porter un nom qui n'est pas le nôtre ?» Et elles dénonçaient la prostitution dans le mariage. Seulement, le féminisme, qui demande l'égalité entre les sexes, est incompatible avec une société de domination. Le rapport de domination est effectivement fondateur des sociétés libérales et néolibérales. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de mémoire, ou très peu. Mmh. On redécouvre ponctuellement ces mouvements qui ont été totalement oubliés. Et moi, j'étais très contente, enfin très satisfaite, de constater qu'un certain nombre de femmes redécouvraient la nécessité de se libérer soi-même à l'encontre de tout ce qui avait été dit antérieurement, et les idéologies de libération, etc., etc., avaient oublié que l'individu ne pouvait être libre que s'il s'émancipait lui-même. Et donc, ce mouvement est important, Et je regrette, moi, tout ce qui se passe à l'heure actuelle dans la presse. Mais enfin bon, ça fait partie aussi des débats d'été. On a assisté à des débats d'été encore plus lamentables. Et je pense que la tribune de Mazarine était sympathique, mais sans grand intérêt. C'est un petit peu comme la tribune de Virginie Despentes. Enfin, ça fait partie de ces mouvements extraordinairement immédiats et qui enflamment les médias, mais ça masque une réalité beaucoup plus importante et beaucoup plus fondamentale.
Alors, on va y revenir évidemment. Ne nous libérez pas, on s'en charge, Bibia Pavard. Donc, c'est le titre de ce livre que vous avez coécrit avec Florence Rochefort et Michel Zancarini-Fournel. Il est peut-être intéressant de préciser, vous le faites dans l'introduction, que ce livre est parti des questions d'étudiants et étudiantes, alors que vous animiez tous les trois un séminaire sur la socio-histoire des féminismes à l'EHESS, et justement sur cette question des mémoires. Peut-être est-ce intéressant que vous partagiez avec nous ces questions qui vous étaient posées, celles qui sont le plus revenues, en tout cas, et ce qu'elles révèlent justement aujourd'hui des préoccupations autour de ces sujets.
Oui, disons que c'est très intéressant en tant qu'historienne de travailler sur les féminismes et de se trouver confrontée à l'émergence d'un nouveau mouvement et de nouvelles générations qui découvrent les féminismes aujourd'hui, parce que du coup ça amène à repenser le passé avec ce regard renouvelé. Et les questions qui étaient posées étaient beaucoup autour de la race, c'est-à-dire les féministes étaient-elles toutes blanches? Y a-t-il eu des féministes noires à toutes les époques? Y a eu aussi des questions sur la subversion de genre, c'est-à-dire est-ce que les féminismes ont toujours remis en question les identités féminines, masculines? Est-ce que toutes les féministes sont des bourgeoises? Question qui n'est pas nouvelle, mais qui est renouvelée aujourd'hui. Et donc, qui nous ont amenés à repenser ce passé et à montrer les effets de continuité, effectivement, comme le disait Michel Rio-Sarcy, qui sont très importants, mais aussi les effets de renouveau, parce que, évidemment, cette nouvelle génération que nous avions en face avait l'impression de porter une toute nouvelle histoire du féminisme à l'heure actuelle, ce qui n'est pas totalement vrai, mais ce qui n'est pas non plus faux. Effectivement, il y a aussi quand même des nouveautés aujourd'hui qu'il fallait aussi essayer de qualifier en les replaçant dans une histoire plus longue.
Et quelles nouveautés, par exemple, alors dans votre livre, vous faites une place importante évidemment à l'intersectionnalité. Est-ce que ça, justement, c'est nouveau? En tout cas, le mot est récent, le concept. Mais ce qu'il y a dedans, est-ce que c'est si nouveau aussi?
Alors là, non. Et je pense que Michel Rio-Sarcy pourra répondre aussi. Parce que les féminismes ont toujours été traversés par les questions d'inégalité, évidemment, femmes-hommes, mais aussi de classe et aussi de race, dans un contexte colonial, par exemple. Et donc, effectivement, si le concept a été forgé dans les années 1990 aux États-Unis, il s'impose progressivement en France aussi, parce qu'il y a une réalité historique qui peut le supporter et qui trouve en fait un écho, évidemment, en France aussi. Par contre, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que le concept d'intersectionnalité est devenu un adjectif et que certaines féministes se revendiquent intersectionnelles et en font donc un positionnement politique et identitaire, ce qui effectivement est nouveau, on peut le dire, dans le contexte actuel. Bon, évidemment, on a aussi développé tout ce que la théorie queer est venue apporter aux mobilisations féministes et comment cela a aussi renouvelé la question de ce « nous, les femmes » qui était vraiment au cœur des mobilisations et qui a été un peu déstabilisé, enrichi par cette question queer, mais qui n'a pas disparu. Les mouvements féministes, c'est aussi une réflexion collective sur ce « nous, les femmes ». Donc voilà, tout ça permet de voir que ce que l'on vit aujourd'hui est à la fois le fruit d'un contexte politique particulier, mais aussi un héritage qui est parfois mal connu, il faut le dire quand même, par ces nouvelles générations. Et donc c'est aussi pour ça qu'on nous a souhaité faire ce livre.
Michel Rio-Sarcy, dans quelle mesure ces questions autour de l'intersectionnalité constituent un des points de tension qu'on évoquait plus tôt ?
Le concept est relativement récent parce qu'il y a un certain nombre d'années qu'il est mis en œuvre, en particulier aux États-Unis, et il est venu un peu plus tard en France. correspond à cette prise de conscience qu'on avait déjà perçue au XIXe siècle. Moi, j'ai en souvenir, parce que ça m'avait marqué lorsque j'ai écrit l'histoire du féminisme dans ce petit bouquin pour la découverte, c'est cette ex-esclave, Sojourner, je prononce mal le prénom, Truth, c'est quand même beau comme nom, qui, lors d'un congrès en 1851 aux États-Unis, relève son bras, relève ses manches, et en disant « Moi, personne ne m'aide à monter dans un bus, ne suis-je pas une femme ?» Donc, cette prise de conscience de cette triple, parce que qu'est-ce que ça veut dire intersectionnalité, donc cette triple ou double domination en tant que noire, en tant que femme, en tant qu'ouvrière, et cette réflexion aujourd'hui est mise en œuvre dans la recherche de manière un petit peu large et correspond, comme le disait Lydia tout à l'heure, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que le présent nous oblige à revisiter l'écriture de l'histoire. Et ça, c'est très important, donc, pour essayer de rattraper en quelque sorte cette lecture un peu linéaire qui toujours correspond à l'histoire des dominants. Et maintenant, il y a une véritable rupture dans une prise de conscience où il est nécessaire non seulement de faire advenir le passé oublié, mais aussi de repenser l'histoire générale en fonction de ces exclusions. Et c'est ça la nouveauté. Et le mouvement MeToo et bien d'autres participent de cette réflexion qui nous permettra et qui nous permettent de revenir sur une histoire qui a toujours été considérée comme linéaire et donc rattraper en quelque sorte toutes ces informations, toute cette tout ce rapport inégal qui s'inscrit dans une histoire méconnue, totalement méconnue aujourd'hui. Et c'est pour ça que le mouvement actuel est très important, parce qu'il est lié aussi à la prise de conscience, non seulement du colonialisme, mais du néocolonialisme. Là, tout à l'heure, à France Culture, il va y avoir la suite de Frantz Fanon. Qui connaît Frantz Fanon maintenant? Très peu. Or, il a marqué considérablement, c'est quand même assez extraordinaire, il a été davantage connu aux États-Unis qu'en France. Et cette prise de conscience avec ce qui s'est passé tout récemment aux États-Unis est particulièrement importante. Et je crois que là, sans aucun doute, nous sommes dans un tournant à la fois de conscience politique et de réflexion historique.
Frantz Fanon, donc la grande traversée à écouter effectivement après le journal de 9h. Bibia Pavard, on parle d'intersectionnalité, donc une notion, un concept qui au départ vient des États-Unis, justement, puisque on est là-dessus. Il y a aussi un débat en ce moment sur des notions, des concepts, des débats importés des États-Unis, et il est aussi question de ça avec la cancel culture qui rejoint dans une certaine mesure les critiques qui sont faites au supposé nouveau féminisme, puisque dans la fameuse tribune de Mazarine Pinjot, il est aussi question de ça, c'est-à-dire de cette morale qui voudrait effacer ceux qui ne pensent pas correctement. Qu'est-ce que vous pensez de ces débats justement autour de l'importation de sujets qui seraient pour certains fondamentalement américains?
Oui, alors moi je suis vraiment très sceptique vis-à-vis de l'idée de l'importation ou de l'imposition d'idées féministes qui viendraient des États-Unis, parce que ce que l'on constate lorsqu'on fait l'histoire des féminismes, c'est plutôt des phénomènes de circulation, d'ailleurs dans les deux sens, de transfert culturel et politique qui consiste donc effectivement à s'approprier certaines idées qui viennent d'ailleurs, des États-Unis, mais aussi du Royaume-Uni, d'autres pays européens, d'autres pays du monde d'ailleurs, mais qui doivent s'adapter et qui sont toujours adaptés et traduits au contexte français. Et si des concepts comme le concept d'intersectionnalité, le concept de genre, le mouvement MeToo a pris, si tout cela a pris en France, c'est aussi parce que il y avait un terreau qui était fertile, parce qu'il y a eu des traductrices et des traducteurs qui ont fait l'effort de s'approprier ces idées et de les traduire au contexte, dans le contexte français. Donc, en histoire, on parle davantage de circulation transnationale que d'effet d'imposition d'un ailleurs. Et ce que l'on constate quand même, c'est que lorsqu'on veut décrédibiliser dans l'histoire, et c'est vrai depuis le 19e siècle, alors avec les suffragettes anglaises, ou pendant les années 70 avec les Américaines qui ont brûlé leur soutien-gorge, c'est que lorsqu'on veut décrédibiliser le féminisme, on le renvoie toujours à un ailleurs, alors qu'il est quand même très ancré, et on le sait, dans la société française, évidemment.
Michel Rieu-Sarcet, là-dessus, sur cette circulation des...
Je pense que, vraiment, c'est tout à fait exact. Alors, il est vrai que la France, en général, a tendance à se tourner du côté des États-Unis, tant du point de vue conceptuel que du point de vue politique. Il faut voir le nombre de... le temps qui est consacré aux élections américaines, par exemple, dans les médias. Ça, c'est une tendance globale, générale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est comme il n'y a pas de mémoire, comme il n'y a pas de continuité, on ne savait pas, par exemple, que le mot « genre », alors qu'il n'était pas encore un concept, mais que le mot « genre », au 19e siècle, était déjà employé. Moi, j'ai un souvenir de, je ne sais plus si c'est Flora Tristan ou Claire Desmarres, qui, dans un papier, explique quelle est cette coutume, précisément, qui nous oblige à nous situer dans des catégories, dans des genres spécifiques. On est au 19e siècle. Et si le mot existe en France, c'est bien le mot genre. Donc, on a expliqué que ça venait des États-Unis. La réalité est perceptible, c'est-à-dire la double domination est largement perceptible dans les différents pays. Et puis, tout d'un coup, il y a un concept qui nous permette de saisir spécifiquement et d'interroger les savoirs établis à partir et avec ce concept.
Michel Rieu-Sarcet, Libia Pavard, nous vous retrouvons pour poursuivre cette discussion à 8h20.
France Culture, les matins d'été, Chloé Cambrelin.
8h21, retour avec nos invités, Michel Rieu-Sarcet, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université Paris 8, autrice de nombreux ouvrages sur l'histoire politique, le féminisme, le genre, notamment Histoire du féminisme, publié en 2002 à la découverte et plusieurs fois réédité, et Bibia Pavard, historienne également, maîtresse de conférences à l'IFP Paris 2, co-autrice avec Florence Rochefort et Michel Zancarini-Fournel de Ne nous libérez pas, on s'en charge, une histoire des féminismes de 1789 à nos jours, à Paris. Paraître à la découverte le 27 août prochain, suite de la discussion ouverte à 7h40 ce matin sur les féminismes, combats, modes d'action, en débat tout l'été avec ses tribunes contre tribunes. Bibia Pavard, je voudrais qu'on revienne sur Christophe Girard dont il était question dans le journal. Vous nous disiez tout à l'heure à propos de MeToo que finalement il y avait très peu d'hommes qui avaient été cités nommément dans ce mouvement-là. Christophe Girard, en l'occurrence, il a été clairement visé personnellement avant même l'ouverture de cette enquête préliminaire là dont il était question. Et c'est ça aussi qui a fait débat sur la question du mode d'action, de viser ou pas quelqu'un personnellement dans l'été.
Oui, mais disons que on peut le redire, Christophe Girard, mais c'est le cas aussi de Roman Polanski ou d'autres, sont visés non pas en tant qu'individus, mais en tant que représentants d'un système qui protège les puissants et qui ne reconnaît pas les victimes. Disons que c'est ça l'idée aussi, c'est de d'ébranler ce système et de se servir de certains cas exemplaires pour pouvoir faire le procès politique des violences qui se perpétuent parce que aussi on n'entend pas les victimes parce que on protège les agresseurs, hein. C'est ça l'idée qu'il y a derrière, et donc je pense qu'on ne peut pas lire cette mobilisation collective comme une prise à partie, comme un lynchage. Le terme ne me paraît pas du tout approprié, puisqu'on est face à des formes de mobilisation qui sont provocatrices, qui ont vocation à être entendues et donc à aller dans l'excès, comme dans plusieurs moments dans l'histoire. Mais voilà, c'est pour ça que il faut sortir, à mon avis, des cas individuels, des affaires qui ne sont pas réglées et qu'il faut, et voilà, et la justice va aussi faire son travail, mais plutôt voir une forme d'action qui vise à attirer l'attention sur un problème par la provocation, comme c'est le cas dans cette affaire Girard.
Michel Rios-Arce, vous nous disiez tout à l'heure à propos de ces tribunes, donc certaines en réaction à cette affaire Girard, d'autres à propos de Roman Polanski, qu'elles étaient quelque part un féminisme de presse. Qu'est-ce que vous leur reprochez finalement? C'est l'absence de portée politique, c'est ça?
Je ne leur reproche pas grand-chose, mais ça ne m'intéresse pas véritablement. La dénonciation des prédateurs, par contre, c'est extrêmement important. Ça commençait en particulier dans l'Église, et c'était particulièrement sain, d'une certaine manière. Et du même coup, cette dénonciation a abouti quelquefois à des excès, peut-être, mais là n'est pas la question, là n'est pas l'important. Il me semble que la question du féminisme, qui demande tout simplement l'égalité, a atteint aujourd'hui une césure, une situation où il est nécessaire d'aller un tout petit peu plus loin, parce que quelle que soit la loi, quel que soit le droit, l'égalité n'est pas encore acquise. Loin de là. Ça signifie donc que le droit ne suffit pas. Et ponctuellement, il est nécessaire de rétablir, disons, les choses à leur juste niveau, la dénonciation de la domination, sur la question des violences en particulier faites aux femmes. J'ai appris hier qu'il y avait encore un nombre supplémentaire de femmes assassinées, exécutées.
Oui, 146 au sein de leur couple en 2019, et plus 21% par rapport à l'année précédente.
Et cette dénonciation est particulièrement importante et utile pour la santé mentale de chacun, d'une certaine manière. Mais, compte tenu de ce qu'est le féminisme, de ce que sont les femmes, et plus globalement, tous les dominés, la caractéristique des dominés, c'est qu'ils n'ont pas participé à l'élaboration de la loi. Ils ont donc conscience de la situation telle qu'elle est. À la fois, ils ont conscience de ce qu'est le monde des dominateurs et la leur. Du même coup, ils sont plus à même, elles sont plus à même d'imaginer une société véritablement égalitaire. À l'heure actuelle, il y a toute une série de collectifs, que moi j'appelle utopiques parce que c'est un petit peu ma spécialité, je sais ce que utopie veut dire, donc des collectifs en devenir, y compris des collectifs à l'heure actuelle qui perdurent chez les Gilets jaunes. J'ai visité tout récemment et j'ai eu des contacts très, très étroits avec le collectif de Commercy et de Saint-Nazaire. Vous voyez à l'œuvre, à la fois, bien sûr, la société telle qu'elle se déroule, c'est-à-dire des relations de conflictuelles entre les hommes et les femmes, mais tous ses vertus et ses forces de rétablir l'égalité. Donc,
quand vous dites qu'il faut aller plus loin, c'est donc comme ça, par exemple.
C'est alors. Ça. C'est-à-dire qu'il faut imaginer à la fois avoir une critique de la domination, une critique de la réalité, de l'exploitation, de l'aliénation, et essayer de saisir en devenir ce que pourrait être une société sans domination. Et donc une société sans domination suppose de construire une théorie dont, à partir des pratiques telles qu'elles se déroulent, pour imaginer effectivement, au-delà du néolibéralisme, une société autre. Ça va être long, mais c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant et particulièrement important et nécessaire. Et qui d'autre que les dominés, et les féministes en particulier, sont à même de saisir la nécessité de ne pas reproduire la société de domination pour une émancipation véritable, c'est-à-dire pour une égalité véritable. Le féminisme, dans la situation présente, est inintégrable à la société actuelle. C'est-à-dire que l'égalité est inintégrable. C'est une utopie.
Bibia Pavard là-dessus et sur voilà cette nécessité d'avoir de la portée politique et d'être dans l'action aussi. Justement, vous avez travaillé sur la présence des idées féministes dans les médias. L'historienne Christine Barr disait il y a quelques jours dans Le Monde que c'est toujours sous l'angle des querelles que les médias traitent ces questions, mais c'est aussi dans les médias que ces querelles ou ces débats, pour être un peu moins péjorative, se développent et s'exposent.
Alors c'est une vaste question, mais disons que pour rebondir sur ce que disait Michel Rios-Arce et pour répondre aussi à votre question, c'est pour ça qu'il est important d'avoir des débats et des contradictions au sein des féminismes, parce que c'est justement par ces contradictions que la théorisation, que la pensée alternative que portent les féministes progresse, parce que il y a des frictions, il y a des oppositions, et donc on observe un mouvement de penser dans ces débats. Sur la médiatisation, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, à chaque moment de l'histoire, les féminismes ont été caricaturés par la couverture médiatique, mais aussi ce que l'on observe aujourd'hui, c'est des formes de circulation vraiment très variées de ces idées, et finalement entendre les subtilités, les divisions, les oppositions de façon aussi importante traduit quand même le fait que ces idées sont en circulation, qu'on essaie de les analyser, et aussi qu'il y a désormais au sein des rédactions une prise de conscience de la nécessité de donner voix à cette diversité des féministes et justement de leur redonner leur pluriel là où on les présente parfois au singulier. Et donc on a des relais féministes aussi au sein des médias aujourd'hui qui ont cette vocation à faire œuvre pédagogique pour qu'on comprenne vraiment ces diversités et ces oppositions.
Oui, cela reste une porte d'entrée possible. Michel Rios, c'est vous qui nous disiez tout à l'heure justement, il n'y a pas de mémoire, on ne connaît pas suffisamment.
Oui, effectivement, si les médias étaient un tout petit peu plus lucides d'une certaine manière et s'intéressaient à tout ce qui se passe et en particulier chez les anonymes, je pense qu'il y aurait vraiment une avancée de ce point de vue-là, plutôt que de se focaliser sur une actualité de spectacle, qui me semble pas d'avoir un intérêt particulier, hein, mais essayer de comprendre ce qui se passe au fond de la société. Et au fond de la société, chez le commun des mortels, la réflexion est beaucoup plus avancée qu'on ne le croit dans ce domaine. Et bien entendu, la peur aussi, c'est-à-dire que les réactions à l'encontre de ceux qui n'ont plus quelques, je dirais, individus à battre, oui, effectivement, c'est quelque chose qui, ça change, hein. Il n'y a plus de domination, on suppose que la société va être différente, on a peur de, c'est quand même plus, je dirais, classique de se sentir plus supérieur à l'autre. Toutes les sociétés ont été fondées là-dessus. Et quand on devine que à terme, cette supériorité sera mise en cause, ça, c'est effectivement dangereux pour ceux qui dominent et ceux qui veulent s'installer définitivement dans leur siège de pouvoir.
Merci beaucoup à toutes les deux. Michel Rios-Arce, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université Paris 8. On peut bien sûr renvoyer donc à votre Histoire du féminisme, publiée en 2002 à la Découverte, rééditée plusieurs fois, ainsi que à vos ouvrages sur le genre et sur l'utopie, le réveil de l'utopie, aux éditions de l'Atelier avec Jean-Louis Laville, et Bibia Pavard, historienne, maîtresse de conférence à l'IFP Paris 2, co-autrice avec Florence Rochefort et Michel Zancarini-Fournel de Ne nous libérez pas, on s'en charge, une histoire des féminismes de 1789 à nos jours, apparaître.
C'est un beau titre.
À la Découverte, c'est un très beau titre. Oui. Et même les titres des chapitres sont très beaux également, apparaître donc le 27 août. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous ce matin, 8h32.